Bonjour et bienvenue à tous pour ce 19e numéro des DC Podcasters classiques. Au programme, une nouvelle équipe créative pour Wonder Woman et Justice League, mais également des annonces de casting pour Why the Last Man. Je suis Just a Frog et on se retrouve juste après ça. M'accompagner ce soir, tout d'abord Watchful qui a gracieusement laissé sa place de présentateur, merci beaucoup.
Bah de rien, t'as très bien fait ton intro, voilà. Ça,
attends, mais on est quand même payé, non? Même si c'est toi qui me présente.
Bah, je sais pas quand est-ce que la paye tombe.
Je promets rien. On verra la qualité du podcast.
Putain, c'est de la merde. J'aurais jamais dû venir.
Donc vous l'avez entendu, il y a aussi Blue.
Et coucou.
Et enfin Clegan.
Bonsoir.
J'adorais le « et coucou », c'était magique.
Attends, après le podcast, je vous raconterai ma super anecdote de comment je me suis retrouvé dans une voiture avec un gars qui mettait la musique de Joker et qui m'a sorti un schlass.
On le mettra en bonus.
Et le mec se faisait des scarifications. Enfin bref, sur le bras, extraordinaire, une anecdote comme je les aime.
Très bien. Okay. En attendant, on va parler déjà de Comics VF avec l'annonce de Batman Créature de la Nuit de Kurt Busiek par Urban Comics. Et c'est Clegan qui voulait en parler.
Ouais, effectivement, le dernier numéro qui était le troisième...
Quatre.
Est sorti, c'était cette année, début d'année, il me semble. Enfin, après...
Ouais, il n'y a pas si longtemps. Hein.
Après quoi, deux ans d'attente?
Ouais. Non, un an et demi, un truc comme ça.
Oui, bref.
Ouais, presque deux ans.
Ouais, ça va.
Et donc, Urban qui publie ça, ça fait quand même bien plaisir, parce que malgré tout, ça reste une série vraiment très très bonne. Et c'est une réimagination de l'univers de Batman qui marche très très bien. Kirk Busiek, c'est de la qualité, le dessin sont très bons, donc... Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés et vous n'aurez pas à attendre deux ans entre chaque numéro, donc c'est quand même un plus.
Très bien. Les autres, vous l'avez lu ?
Pas entièrement, justement, parce que j'attendais une sorte d'édition reliée. J'ai lu le premier chapitre, peut-être le deuxième. Je me souviens plus très bien. Et je me rappelle juste que les planches de John Ponleon sont juste terribles. C'est un artiste que j'aime énormément, John Ponleon, et... qui est généralement un peu trop oublié à cause de la suite qu'il avait fait sur Earth X avec Alex Ross. Et justement, parce que Alex Ross avait un style, une peinture lumineuse, et lui, à la suite, justement, avait des ombres très marquées, ce qui fait qu'il y avait une énorme différence, et généralement, on se dit que la suite de Earth X est mauvaise à cause de ça, graphiquement, alors que pas du tout, c'est juste un style très différent, aux antipodes d'Alex Ross, mais c'est un style magnifique en fait. Ses ombres sont très prononcées, mais en fait c'est un style qui a besoin d'un scénario forcément sombre. C'est pour ça qu'on le voit sur Gotham Central. Je crois qu'il a fait quelques trucs sur DMZ, mais je suis plus sûr. Et là, Créature de la Nuit, c'est un scénario parfait pour lui, avec Kurt Busiek à côté. En plus, ça, l'idée est complètement barrée, mais en même temps, enfin, elle est osée, pas barrée, elle est plutôt osée, et ça aussi plus vers le fantastique que vers ce Batman moderne qui tente de justifier ses actions en permanence. C'est un récit beaucoup plus sensible et fantastique. J'ai trouvé ça vraiment très très bon dans son introduction. Et j'attends juste là l'édition Urban pour terminer ce récit.
Bien. J'ai vu d'ailleurs qu'il sortait aussi une édition noir et blanc du récit.
Et bien ça, par contre, pour John Podlon, je pense que je vais vraiment le prendre en VF en noir et blanc.
Et après, on dira qu'il faut faire des dossiers sur la colorisation, parce que c'est important quand même de reconnaître le travail des artistes. Et bam, voilà ce que tu fais, Watch. Voilà, bravo. Mais on périle toute une industrie.
Bah non, vu que de toute façon, je prendrai les deux éditions. Donc...
Mais de quel culot vous permettez de critiquer des livres? Des livres comme Wonder Woman tome 3, monsieur Watchful. Comme Wonder Woman tome 3. Comment vous permettez-vous?
Je me le permets.
On croit rêver, parce que si vous pensez écrire mieux, eh ben, écrivez mieux. Hein.
Il y a pas vraiment... Enfin, je vois pas ça comme un défi, en vrai. Hein. Ça va, ça passe. Wonder Woman tome 3, c'est tranquille, côté défi pour écrire. Non, mais par contre, John Paul Leon, c'est vraiment, c'est vraiment une super bonne pioche. Et je sais même plus de quoi tu parlais juste avant ça.
À propos... Ah, parce qu'il y avait une édition noir et blanc.
Ouais, et après il était parti sur autre chose avec la colorisation. Bon, bref, j'arrive même plus là-dessus, oui. tu vas trop vite là.
Non mais du coup, achetez-le, parce que ça mérite vraiment d'être acheté. Que Buzzy X, c'est un amoureux de la continuité sur plein de choses, c'est un mec qui aime vraiment ses personnages, et du coup il fera tout pour les inscrire dans un contexte, tout en réinventant des choses, et c'est très très cool, c'est un gars qui est passé sur plein de choses pour leur donner un nouveau souffle, par exemple... C'est un gars qui a redcon Vampirella à une époque pour repartir sur de nouvelles bonnes bases. C'est le gars qui écrit, ouais, enfin, c'est un peu compliqué, mais qui est sur Astro City. Parce que bon, Astro City, c'est pas fini, mais un peu, mais pas trop. Mais des fois, on ressort un numéro parce que ça fait plaise. Donc, allez-y, parce que je pense que sur Batman et surtout sur ce type de format, c'est... C'est sans doute une des meilleures histoires que vous pourrez trouver actuellement sur tout ce qui est récent.
Bon, bah ça résume très bien la chose. Ça sort donc le 3 juillet et vous pouvez choisir entre l'édition color ou l'édition noir et blanc. Mais...
Hérésie.
Voilà. On va enchaîner sur les news VO parce qu'il y en a pas mal. En commençant par l'annonce de Sean Murphy d'un mini-imprint dans son univers White Knight. Blue, tu voulais dire quelque chose à ce propos ?
Bah oui, la gamme White Knight est amenée à s'enrichir visiblement, puisque bon, si on lui crée un imprint, bah, il pourra s'amuser dessus. Alors c'est pas mal dans l'idée où même si ce qu'on pense ou pas de White Knight, au moins, ça fait un petit cadre pour les lecteurs. On l'isole, comme ce qui devait être fait, puisque ça se passe dans un univers parallèle, bien entendu. Et on va lui permettre de développer une certaine gamme autour de ses idées. Et c'est pas mal d'un point de vue vente, puisque au moins, on aura un petit logo, je sais pas comment ils vont appeler ça, mais Sean Murphy White Knight Verse. Et ça pourra orienter les lecteurs et les pousser à continuer dans le délire de Murphy et lui le pousser à développer un truc plus gros parce qu'il y a des moments dans ses aventures de White Knight on sent que derrière il y a un univers qui appellerait à être quand même plus développé et il ne le fait pas et donc le fait de lui octroyer un imprint ça peut le pousser lui mais aussi d'autres créateurs parce que potentiellement il y a d'autres personnes qui peuvent rejoindre l'imprint à développer des choses dans cet univers. Donc, pourquoi pas. Quand ça pousse à la création, en général, je suis pour. Après, il faut voir ce que ça va donner pour la suite. Parce que bon, vous savez, moi, je suis pas
White Knight. Il y a vraiment besoin d'un imprint pour White Knight, etc. Enfin, de toute façon, entre White Knight et Curse of the White Knight, c'est une continuité. Alors après, développer des one-shots autour, des mini-séries sur l'univers... C'est censé être connecté juste par le nom de l'artiste, en fait. T'as pas besoin
de faire un imprint pour ça. Je pense qu'il y a, justement, c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir des choses. Il n'est pas improbable qu'il y ait des choses autour et qu'il y ait un plan plus grand. Parce que ça reviendrait à dire actuellement que tu vas faire un Dark Knight Returns verse. Et tu dis, c'est le premier. Oui, voilà. Mais avec des choses autour. Là, le fait qu'il crée, alors que lui est toujours sur le titre et que c'est un truc qui a été lancé. Finalement assez récemment, parce que White Knight, c'est pas vieux, ça doit avoir un an et demi peut-être, je sais pas.
Non, ça a 2 ans.
Ça a bien 2 ans.
Ouais, 2 ans.
Mais
il y a moyen qu'il fasse quelque chose.
Voilà, mais c'est tout le souci, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ça va juste tirer sur la corde du tiroir caisse pour pouvoir se faire un peu plus d'argent sur le nom de Sean Murphy et de White Knight, puisqu'il y a des gens, White Knight a été un succès, Curse of the White Knight est parti pour aussi, donc ses suites, ça va être pareil. J'ai juste un peu peur de la qualité des œuvres à venir si Sean Murphy justement vient à laisser ses créations, son petit univers, être exploité par d'autres. Je dis pas que c'est un mal, je dis que c'est risqué et voir un imprint créé pour ça, c'est peut-être pas bon signe.
Après, de ce qu'il a dit, il va rester quand même maître de tout cet univers-là. Il va juste sous-traiter en gros la scénarisation et les dessins. Et par contre, il a bien, enfin, j'ai vu sur son tweet, il a bien établi des règles qui s'appliquent exactement à tout son univers. Et enfin, après, ça peut aussi faire découvrir, bah, comme par exemple les labels genre Young Animal et compagnie, qu'on fait découvrir des nouveaux scénaristes et des nouveaux artistes qui étaient plutôt talentueux.
Oui, je suis d'accord avec toi. Je dis juste que c'est risqué, je dis pas que c'est forcément mauvais, mais je le prends pas vraiment comme une bonne nouvelle. Je suis en mode, bon, ils vont faire ça. Ok, on va voir ce que ça donne.
Moi, je m'inquiète plus sur le fait d'ajouter des labels sans cesse. Là, ce sera DC, Black Label, Murphyverse. Ça va être...
Murphy World, c'est son imprint, son truc à lui, un petit peu... Bon, après, on va pas se mentir, hein, White Knight, je l'ai lu, je trouvais ça agréable. Hein. Je trouvais ça agréable. C'était pas le problème, c'est que lui, il avait vendu, encore une fois, Sean Murphy, quand il a vendu White Knight, il a vendu comme une sorte de révolution extraordinaire. Et d'ici, comme dès qu'il parle de Sean Murphy, ils ont survendu le truc. Et c'est un peu ce qui a desservi l'œuvre pour moi. Mais il faut quand même être un peu réaliste. En octant le premier White Knight, mais là le second, s'il y a des gens qui critiquent Scott Snyder, ça va commencer à être difficile de pas critiquer Sean Murphy sur certaines choses, hein, parce qu'on part sur des bons gros délires de style série Z. Hein. Donc s'ils font venir de nouveaux scénaristes, ça peut aussi faire des choses pas mal, parce que là actuellement, si on le laisse aller dans cette direction. Bon, dans pas longtemps, on retourne des cartes du multiverse et on crée
non,
des
non,
marques.
Non, 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 mais non, mais je trouve ça super bien ce qu'il fait sur Curse of the White Knight.
Je sais pas, je trouve que
c'est bas du front, c'est très bourrin, mais moi, ça, je trouve ça génial. Parce qu'il ose vraiment user de son concept d'Elseworld jusqu'au bout.
Ouais, mais Scott Snyder...
Snyder, il te fait parler la tête du Joker dans un bocal. Et après, il te le met dans une sorte de méca et Joker rejoint la Justice League. Le bordel total. Mais non, mais là, c'est complètement incohérent. Alors que là, ce qu'il fait.
T'es juste jaloux parce que Batman, il a battu Superman avec un chewing-gum à la kryptonite.
Oh,
et voilà.
Ça, c'était sale. Ah, mais. Tu vois, c'est justement ça. Scott Snyder, il va trop loin et il va. C'est un manque de. Enfin. C'est complètement out of character, alors que là, avec Sean Murphy, ça reste cohérent avec le caractère des personnages. Ils modifient légèrement leur caractère, mais leurs réactions sont quand même sensées. Tu retrouves les personnages que tu connais et t'es pas coupé dans le récit à te dire « Oh là, c'est quoi ce bordel ?» Je reconnais pas mon personnage. Là, je le reconnais et je me dis « Merde, il est en train de vivre ça dans une version alternative, mais il le vit. » Ce qui fait que les moments osés sont forts et sont pas mais pourquoi il a fait ça?
Moi, je sais que j'ai eu du mal en lisant le premier White Knight avec ce qui fait de la continuité. Par exemple, il enlève des Robins. Moi, ça m'a dérangé au départ. Et au final, je pense que si tu te laisses porter, si tu prends pas ça en considération, parce qu'au final, le lecteur moyen, il prend pas du tout ça en considération. Mm. C'est juste qu'il va apprécier le récit comme il est. Et certes, c'est simple, mais c'est plutôt intéressant.
Ben en fait, il fait le tri pour justement créer ce qu'il veut garder de l'univers. Et je trouve que ça marche vraiment bien quand tu le prends comme ça. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire avec tout ce qui est Elseworld, avec tout ce qui est réalité alternative. Faut se dire que c'est une vision de l'auteur qui va prendre des choses qu'on connaît, mais pas prendre tout ce qu'on connaît. Il y a plus d'idée de tout est canonique et on va prendre tout ce qui a été canonique depuis l'origine du personnage jusqu'à aujourd'hui pour en faire une nouvelle version. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment on prend ce qu'on veut.
Ok. Clegane, des choses à rajouter ou pas?
Ah non, moi je l'ai pas White Knight, donc ça je m'en fous. Après, franchement.
Eh bien, très bien.
Ah, ça c'est beau dans le podcast, c'est l'honnêteté.
Mais oui. Mais du coup, on va pouvoir enchaîner avec une autre news. C'est une nouvelle équipe créative sur le titre Wonder Woman. Et justement, Clegane, c'est toi qui voulais en parler.
Effectivement, Steve Orlando a fait l'intérim pendant quelques mois et maintenant se barre chez Marvel. Donc il était temps un peu de faire ménage et de relancer Wonder Woman. Et on a donc l'arrivée de...
Mariko Tamaki.
Exactement. Scénariste, entre autres, de Supergirl Being Super et dernièrement de Harley Quinn Breaking Glass, si je ne dis pas de bêtises.
Oui. Ouais. En parallèle, elle a écrit X-23 chez Marvel aussi.
Qui sera accompagné au dessin, en tout cas pour le début, de Miguel Hanin, le compère de King sur Batman. Et donc, je trouve que c'est une équipe créative qui, à première vue, donne assez envie. Et en plus, on nous promet déjà le retour de Maxwell Lord et le fait de voir une Wonder Woman qui va être confrontée aux attentes des gens envers elle. Donc moi, je demande à voir. Je pense qu'il y a moyen que ce soit très intéressant. Et franchement, Wonder Woman, on n'a vraiment pas eu grand-chose de bon depuis le départ de Ruka, donc il serait vraiment temps d'avoir un bon comics, Wonder Woman.
C'est vrai que c'est naze. Hein. C'est vrai que c'est pas bien. C'est vraiment pas bien, hein, actuellement, Wonder Woman. Bon, on verra bien. Je sais pas dans quelle mesure il a été décidé par Tamaki que Maxwell Lord devait revenir. Après.
Oh, mais c'est le film, hein. Ça, c'est
oui,
clair.
Bien sûr, voilà. Non, mais.
Collé au film.
Non, mais après, peut-être que. Tu vois, la question, c'est. Est-ce que. Ils l'ont balancé sur le titre et il y a le film arrivant, ils lui ont dit. Ça serait bien qu'il y ait Maxwell Lord. Ou alors, elle avait envie de bosser. Enfin, de créer une histoire avec Maxwell Lord. Et ils lui ont dit, bon, il y a le film, il y aura Maxwell Lord. Écris-le parce que t'aimes bien Maxwell Lord. Tu vois. C'est la différence. Est-ce que ça lui a été imposé ou c'est elle qui, à la base, voulait. Et dans tous les cas, Supergirl, Being Super, c'était vachement cool, de ce que je m'en rappelle. Et ça peut être une très bonne idée. Et, c'est les fameux titres où, vu ce qu'on a eu avant, on ne peut que lui laisser sa chance. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec, par exemple, Suicide Squad.
Ouais.
Vu que c'était de la merde, tant qu'à faire, il y a une nouvelle personne qui se pointe, donnons-lui sa chance. Au pire des cas, ça pourrait pas être pire. C'est tous ces titres où s'est enchaîné que des conneries du style Harley Quinn, etc. Vous mettez un nouveau gars, ça peut être mieux. Et au pire, vous ne le lirez pas comme vous le faisiez avant parce que c'était pas bien.
Surtout que Tamaki, jusqu'à maintenant, elle a écrit que des personnages un peu adolescents. Et je pense que ce serait intéressant de la voir sur justement une personne adulte maintenant, et même une héroïne qui est bien plus connue que ce qu'elle écrit jusqu'à maintenant.
Oui.
Moi, je pense que mettre des nouveaux talents sur des titres principaux, c'est une bonne chose.
Ouais, ça pourrait rafraîchir l'image de Wonder Woman. Mais comme dit Blue, en fait, le risque, c'est qu'elle soit là pour la commande. Tu parlais d'X-23 tout à l'heure. X-23, je trouve que c'est son titre le plus faible dans tout ce qu'elle a pu faire. J'ai pas tout lu.
Mec, elle a écrit Tomb Raider. Hein. Elle a écrit un comics Tomb Raider.
Ah bah ça, par contre, je n'étais pas au courant.
Doucement.
Qu'elle a fait énormément de choses en indépendant, justement, et qu'il y avait des choses extrêmement bien. Mais c'était des récits vraiment personnels. Après, pour ce qui est de chez Marvel et DC, Supergirl, c'était super cool, etc. Pour Wonder Woman, là, j'ai peur que ce soit vraiment que de commande, parce que X-23, j'avais l'impression que c'était ce que j'ai eu de plus faible et qu'elle a pu faire, et qui ressemblait justement le plus à cette notion de commande derrière.
J'ai pas lu She-Hulk, par contre. Je sais qu'elle a écrit dessus.
She-Hulk, alors si je me souviens bien, si c'est bien le She-Hulk auquel je pense, c'était très long, très lent. Les gens étaient vraiment pas enjoués, mais moi j'ai des bons souvenirs parce que c'était vraiment une sorte d'introspection de cette femme qui se retrouvait seule et un peu désemparée par ce pouvoir qu'elle avait.
Bon, pourquoi pas d'un coup.
Alors, ça, tu vois, ça aurait. En fait, si tu veux le comparer à un titre récent chez DC, ça aurait donné un peu ce qu'a donné là le Aquaman de Kelly Sue DeConnick.
Ouais.
C'est-à-dire, voilà, tu peux t'ennuyer un peu. Mais en fait, quand tu le lis en relié, c'était vrai, je trouvais ça vraiment bon. Enfin, j'ai préféré ce She-Hulk à ce qu'a fait Kelly Sue DeConnick sur Aquaman, mais c'est juste pour te dire de donner une idée de rythme, en fait.
Non, mais là, ça va être pas mal. Puis ça la foutra moins mal pour DC si elle arrive à proposer quelque chose qui est pas dégueulasse. Parce que c'est vrai que je me rappelle quand Wonder Woman est sorti, on était là en mode « Quel comics vous conseillez sur Wonder Woman ?» Wonder Woman de Ruka. Et puis là, on arrive, je sais pas, il est sorti quoi, il y a un an, 2 ans le film, le dernier.
Non, ça fait 3 ans.
3 ans déjà. Qu'est-ce qu'on vieillit.
4. C'est 2016.
Qu'est-ce qu'on vieillit.
3 ans. Ouais.
Voilà, ça fait 3 ans.
Mais Blue, ça s'est bien passé ta cryogénisation là.
Ah putain, non, mais je suis en mode. Déjà, le film, j'ai mis trop. En fait, comme les films, je vais pas les voir et que j'attends 1000 ans avant de les voir parce que j'attends que la hype passe. je les vois toujours un ou deux ans après. Je rappelle que j'ai toujours pas vu Justice League.
Et du coup, mais là, tu l'as toujours pas vu non plus parce qu'on en parle encore.
Non, je l'ai eu vite fait, mais du coup, je me dis là, le lecteur, ça fait 3 ans hein, que la hype Wonder Woman est passée. Il revient, on lui dit qu'est-ce qu'il y a de nouveau là, qu'est-ce qu'il y a de frais sur le personnage. On lui répond tu vois l'album que t'as acheté la dernière fois là, parce que t'avais bien aimé le film, tu peux le racheter le même. Hein. Allez, amuse-toi bien, parce qu'il y a rien. Et du coup, ça la fout mal, parce que bon, même si on essaye de nous faire croire que Wonder Woman, ça fait partie, de la Trinité au même titre que Batman et Superman, on sait très bien que Wonder Woman, c'est loin derrière dans l'intérêt des gens, parce que les gens ne lisent pas de comics Wonder Woman, faut arrêter, c'est pas vrai. Donc, le grand public, j'entends. Hein. Il serait temps d'avoir quelque chose à leur foutre sous la dent et les faire aimer les comics Wonder Woman.
Mais justement, je pense que ramener Michael Ranin sur ce titre-là, qui maintenant a une célébrité avec ce qu'il écrit sur Batman, ça permettra de ramener de nouveaux lecteurs et, si le scénario suit, peut-être les accrocher pour un moment.
Non, mais en fait, c'est con à dire, mais je pense que Wonder Woman, c'est un personnage qu'ils devraient mettre en avant, mais plus dans le côté, Justice League. Et faire vraiment, dans la Justice League, de mettre vraiment ce personnage en avant pour lui donner une place de premier plan plutôt que forcer sur des titres solo qui, depuis Roca, ne fonctionnent pas. Parce que je pense que si tu veux faire rentrer dans l'univers de Wonder Woman, il vaut mieux la rendre intéressante dans un titre choral comme un truc Justice League que lui faire un titre solo que les gens ne vont pas spécialement acheter. Parce que là, il y a un vrai désintérêt. Hein. Je pense que déjà, quand il y a eu le film, les ventes de Wonder Woman, elles n'ont pas du temps explosé que ça. Mais alors là, 3 ans plus tard, ça va être compliqué. Hein.
Je suis d'accord avec toi et je suis en train de penser que c'est l'héroïne principale de Justice League Dark en ce moment. Et c'est plutôt pas mal.
Oui, voilà, ça fait partie de ces personnages. Tu sais très bien que Wonder Woman, tu pourras pas la faire, même si elle est dans la Trinité, tu pourras pas la faire. Elle deviendra jamais. Enfin, j'espère hein, peut-être un jour, mais elle deviendra jamais un personnage de premier plan et ni même, je pense, de second plan. Parce que les personnages de premier plan, bon, actuellement, on le sait, c'est Batman en classique, et puis t'as Harley Quinn, c'est un peu triste, mais oui. En second, t'as d'autres trucs qui sont propulsés par pas mal de séries télé qui ont progressivement monté dans l'intérêt. Mais Wonder Woman, pour moi, elle a été laissée derrière. Et en plus de ça, on peut comprendre pourquoi, parce que même les gens qui veulent se tourner vers le comics se rendent compte que, passé Ruka, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Alors, s'il y en a certains qui me diront Azzarello, mais bon, voilà. Bon. Il y a 2-3 trucs à dire quand même sur ce run. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne et j'espère que... on aura un titre assez cool pour donner aux gens envie de lire la suite. Et ça ne demande pas grand-chose. Hein. À la limite, faire un titre feel-good comme elle a su faire sur Supergirl Being Super, même s'il y a des passages un peu particuliers. Tu vois, un peu comme, pour moi, tu prends, regarde ce qu'a fait, même si ça avance pas, même si tu prends ce qu'a proposé Jones sur Shazam, en parallèle du film, enfin quand le film est sorti, ils ont lancé le Shazam, tu lis le premier numéro, c'est cool. T'as envie de lire la suite. Wonder Woman, actuellement, c'est un peu plus compliqué, donc ça serait bien qu'ils réussissent à faire la même, mais sur le personnage de Wonder Woman, pour relancer la machine.
Très bien. Et donc, on va passer à la news suivante. Déjà, on pourra découvrir ça à partir du 10 juin, au numéro 759. Donc, on verra. Et sinon, c'est un autre titre qui change d'équipe créative, et cette fois-ci, c'est Justice League, qui prend Cy Spurrier comme scénariste. Watch, c'est ton moment.
C'est mon moment, ouais, mais moi, je suis content, en fait. Attends, j'arriverai jamais à le prononcer. Alors, Simon Spurrier, je pense que c'est que ça se dit comme ça. Et oui. Ce mec-là, je le trouvais... Enfin, là, il a fait Hellblazer, là, sur le renouveau, j'allais dire de Vertigo, non. Bonne blague. Non, comment on appelle ça du coup? C'est le Sandman Universe?
Le Sandman Universe.
Okay. Ouais.
Et donc du coup, il bosse dessus et ça a été la grosse surprise là. C'était le renouveau de Hellblazer et Blue en est témoin. C'est plutôt pas mal.
Ouais, c'est cool.
Donc moi je suis content là, enfin c'est une nouvelle équipe créative, parce que là le début de la Justice League de Venditti a commencé, c'est clairement pas top, c'est vraiment bourrin. J'avais de l'espoir après les Freedom Fighters que Venditti avait fait, comme quoi il savait gérer un titre d'action, un titre qui parle d'une équipe, mais on perd toute la créativité qu'il avait dans Freedom Fighters, etc. Et ça se résume vraiment à du bourrinage un peu bête et méchant, qui rappelle les heures les plus sombres de Tomasi sur Superman. Et donc là, retrouver ce scénariste-là sur Justice League, qui va prendre la suite, je crois que c'est en juin, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie, en juillet. Ce sera en juillet, et Spurrier a dit sur Twitter qu'en fait, il avait prévu un arc sur Justice League, donc ce ne sera pas une équipe créative maintenue, enfin, a priori non, mais il est possible que ça le reste. Et donc, à partir de Justice League 48, Spurrier reprendra les rênes de Justice League pour un arc qui va s'appeler The Rule of War, avec, j'ai dit Robert Venditti au dessin, mais pas du tout, Aaron Lopresti. Et je suis plutôt content de voir ce dessinateur-là, parce que c'est vraiment un dessinateur qui a été longtemps tenu comme un second couteau. Et ces dernières planches, je ne sais plus où je les ai vues, mais j'étais un peu étonné de voir que c'était lui qui avait fait quelque chose d'aussi beau, parce qu'avant il avait un trait très marqué, avec des formes très arrondies, une sorte de Ed McGuinness, mais en moins extrême. Et en fait, il s'est vraiment amélioré depuis quelques années, donc j'espère qu'il va pouvoir saisir sa chance ici avec Justice League et être enfin reconnu. À côté de ça, il y a également un changement sur Shazam, parce que justement, Blue en parlait. Shazam qui va changer, qui va avoir un des scénaristes de Rick et Morty, qui va prendre les rênes de Shazam. Et ça, je trouve ça très cool, parce qu'on va pouvoir trouver du Shazam plutôt délirant. Et même si j'aime beaucoup le Shazam de Geoff Jones, j'ai pas vraiment aimé ce qu'il a fait là sur Shazam. Je trouvais ça vraiment en deçà de ce qu'on peut attendre de Geoff Jones. Donc voir un Shazam qui pourrait partir sur une série délirante, moi je suis partant. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur...
Ouais. C'est inquiétant, donc Jones, il n'aura plus aucune série dans quelques mois, je disais.
Inquiétant, oui et non, parce que bon, Geoff Jones, il a pas fait que des choses chez DC, hein. Il est capable de faire beaucoup d'autres choses, que ce soit en indépendant ou chez Marvel.
Non, mais c'est pas ça, mais le fait que chez DC, tu n'as plus aucune série Jones, mais pas pour lui, mais pour la marque DC, c'est inquiétant.
Attends, tu vas voir Street Joker, on va voir ce que ça donne, ce truc.
C'est vrai, il y a aussi ça.
Mais... Oui, mais c'est une mini-série, ça, en trois numéros, c'est
ouais, fini. Mais à un moment donné, là, en fait, ils se préparent quelque chose, parce que, enfin, il y a plein de choses qui arrivent à leur fin, tu sais que, quand s'appelle Doomsday Clock, c'est terminé. Bon, on repart, il y a Snyder qui fait ses Snyderies de son côté. T'as Street Joker, il y a quelque chose, tu vois, il y a cette fameuse 5G, on sait pas trop, machin, t'as Didio qui vient de jarter. Il y a un truc qui se prépare, donc attendons de voir pour Jones. Et puis, ça ne serait pas improbable que Jones débarque avec une série Stargirl à un moment donné. Vu que je pense que ça va partir comme ça. Là, déjà, il va faire les tours des plateaux, la promo, etc. pour parler Stargirl. Je pense que Stargirl ou... une forme dérivée chez ça, etc., va finir par revenir d'ici peu. Grâce à, comme à chaque fois, quand on lance une série TV et que ça marche, derrière, quand on se rend compte qu'on n'a rien pour le lancer de neuf, on va dire, ils font créer. Et je pense que là, Geoff Jones pourra créer quelque chose. Moi, ça m'emmerde un peu qu'il quitte Shazam, je dois t'avouer. Après, le problème, c'est que il faut aussi se rendre compte que sur Shazam, les numéros, ils mettaient du temps à apparaître. Enfin, Judge Jones en général, hein, mais les numéros mettaient du temps à apparaître. Et il avait l'air d'avoir un grand truc avec plein de monde, on va dire des royaumes magiques, etc. Et je pense qu'il laisse de bonnes bases au futur mec qui reprend pour faire quelque chose de vraiment cool. Et en plus, il a fait en sorte de donner quelques détails sympathiques sans trop en dévoiler, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment tout un univers exploré et qu'il ne se retrouve pas, pris à la gorge parce que Geoff Jones a déjà fait. Impression qu'il a pu lancer, par exemple, derrière Green Lantern, tu vois. Parce qu'après ce qu'il a fait sur Green Lantern, les mecs, ils ont donc chié derrière. Ça, faut en parler, mais ça a galéré, mais un truc de malade pour faire quelque chose sur Green Lantern, parce que tout le monde était là en mode... comment on passe après lui. Et finalement, bah, ils ont fait des trucs bof, quoi. Pas revenir avec Venditti, mais si. Si, c'était chiant, quoi. C'est pas fondamentalement mauvais, mais c'est chiant.
Ok, très bien. Du coup, on va enchaîner avec une nouvelle un peu insolite pour du comics. C'est l'annonce de Sandman, mais en livre audio. Et donc, Blue, que voulais-tu dire à ce propos ?
Eh bien, j'aimerais préciser que j'aime beaucoup les ASMR. Hein, et ça, c'est quelque chose qui sera très vite mis en place, les podcasts ASMR, très bientôt sur DC Planet, hein, retrouvez-nous. Mais c'est pas mal que Sandman... en fait, quelque part, c'est logique. C'est Sandman, c'est cette histoire, ça reprend vraiment le côté littéral du marchand de sable, ce truc que les parents vont lire à leur enfant avant d'aller se coucher, sorte de conte, etc. Et je trouve que ce côté de livre audio, c'est assez intéressant, parce que de toute façon, les livres audio, bah, c'est dans ces moments-là que tu les écoutes, ou alors quand tu vas, pour les gens qui pratiquent le footing, qui vont courir, mais sinon, c'est plus dans ces trucs-là. Et moi, je trouve ça assez cool qu'on revienne avec ce côté très conte raconté avec Sandman. Et ça peut être vraiment sympatoche.
Mais c'est du conte violent, hein, quand même.
Oui, non, mais après, bon...
C'est pas le petit conte que tu racontes à tes gosses. Hein.
Ouais, mais après, toi, après, on a eu l'enfance qu'on a eue, tu vois. On a eu l'enfance qu'on a eue, quoi.
C'est violent.
Ouais, voilà. Enfin, heureusement qu'il y a Walt Disney, hein, parce que derrière, quand tu vas falloir expliquer à ton gosse pourquoi les sœurs de Cendrillon, on les fait danser avec des chaudrons, faire des chaussons chauffés à blanc, bon, t'as bien compris que...
Tu fais crever les yeux.
Ouais, bon, après, c'est mérité, tu vois. Fallait pas faire chier l'autre. Les princesses, non, ferme-la. Donc... Ça, c'était mérité. Mais ce que je dis, c'est que bon, ça peut accompagner vos sorties, vos machins, et revenir avec Sandman, qui est quelque part un conte de fées pas si enchanteur que ça, on va dire. Et revenir à ce côté très conte raconté, ça peut être cool. Donc, c'est une bonne initiative.
Non, je suis d'accord avec toi, c'est une très bonne chose. Ça prendra les numéros 1 à 20 du comics. Donc c'est, il me semble, tout l'arc où il va chercher un peu ses cauchemars qui se sont enfuis de son royaume. Et j'ai vraiment aimé cet arc. Et ce sera raconté par Neil Gaiman en personne, avec sa douce voix d'anglais. Voilà. D'autres choses à dire ?
Non, bah oui, c'est... C'est une initiative super cool, franchement.
Non, mais Clegane, il voulait la même chose avec Green Arrow.
Non,
genre du style, Green Arrow lança la flèche dans l'œil du vilain monsieur. Le comte Vertigo tomba du toit et mourut. Fin. Clegane, il s'est endormi, là.
Effectivement. Mais non, y a beaucoup d'actualités en ce moment autour de Sandman, donc c'est cool. Ça sera sans doute bien. Bon, après, la série TV, on verra, mais...
Non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore.
Bon, on va bientôt y être, t'inquiète.
Watch.
Voilà, vache, la Clegane, il est complètement à plat, il va falloir le réveiller. Non, Sandman, je trouve ça cool, parce que... Alors, cool et pas cool, en fait. Bon, j'ai pas lu Sandman, honte à moi, mais je me suis payé l'omnibus, là, il m'attend. Et je l'ai feuilleté, et c'est juste vraiment magnifique, les pages.
Il fait genre, il est pas riche. Wow.
Alors oui, justement, parce qu'en fait, ça va avec, si tu deviens pauvre, tu décides d'être pauvre. Donc c'est toi qui vois. Non, du coup, j'ai vu quelques planches et c'est vraiment magnifique, malgré les différences, les différents artistes. Il y a quand même une esthétique qui est maintenue et c'est vraiment très très beau. Et je trouve ça dommage de l'adapter en livre audio, parce que du coup, on perd cette esthétique-là. Néanmoins, ça met en avant toute la qualité littéraire justement de l'auteur qui est Neil Gaiman, parce que c'est également un auteur qui écrit des romans plus ou moins bons, mais vraiment il y en a des excellents. Et si j'en ai un recommandé, ce serait L'Océan ou Au bout du chemin, qui est l'un des romans
que je préfère. C'est génial.
C'est vraiment un des meilleurs romans sur l'enfance, un des meilleurs romans fantastiques. C'est excellent. Et c'est vraiment un roman à lire. Et donc oui, pour ça, je trouve que l'adaptation est plutôt, est intéressante, et en même temps, ça permet de faire connaître Sandman.
Et pour ça, on ne peut pas trouver que c'est une mauvaise initiative.
Puis il y a aussi des histoires de Sandman qui sont pas sous la forme de comics. Ouais, voilà, c'est ça. C'est, ouais. Je sais que elles y sont. Je sais pas si c'est des nus. Alors la question, je sais pas si c'est des numéros à part entière ou ces trucs un peu spéciaux à côté, mais je sais que si vous achetez les intégrales d'Urban Comics, il y en a quelques-unes comme ça, notamment toute une histoire qui se passe du côté des rêves asiatiques. Et du coup, là, ça peut être intéressant. Et je pense que Neil Gaiman arrivera à retravailler ces histoires de manière à ce qu'on les comprenne d'une belle manière quand elles sont narrées, tout simplement, et pas ouais. juste montrées.
C'est pas lui qui s'occupe de ça. C'est,
oui, mais il aura quand même son... Je pense que là, il aura quand même un minimum...
C'est Dirk Maggs.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais, la différence, c'est comme là... Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que là, pour le coup, c'est lui qui va lire les trucs. Du coup, il va quand même... Tu vois, il va lire ce qui est produit. Autant Neil Gaiman, il est quand même critiquable sur pas mal de trucs en mode ouais, bon, j'en ai rien à branler, je prends le chèque et puis faites ce que vous voulez. Enfin, on l'a déjà vu, hein, Neil Gaiman faire ça. Là,
il
vu
a un
que...
gosse élevé. Hein.
Ouais, là, vu qu'il s'investit, il va être investi directement dans le truc, il sera quand même beaucoup plus regardant sur ce qu'il va dire. Tu vois, il peut... enfin, le mec est quand même auteur. Selon la façon dont c'est raconté, c'est son œuvre, selon la façon dont ils vont tourner les trucs, il va dire « Oh les gars, on peut pas passer pour un con en fait. » Donc non.
Et Dirk Maggs, c'est pas n'importe qui, surtout, il a traduit tous ses romans pour les adapter en livre audio. Donc mm-hmm. c'est un gars avec qui il a l'habitude de bosser, et il y a pas de raison que ça se passe mal.
Voilà. Après, il faut avoir le... Comment ça s'appelle ? Est-ce qu'il y aura une production value, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura des effets sonores, des machins comme on peut entendre dans certains livres audio, ou est-ce que ce sera un truc vraiment livre audio avec juste la voix de Neil Gaiman? On verra bien quelle forme ça donnera.
Ils ont déjà annoncé qu'il y aura des acteurs qui vont incarner les personnages, et je pense que tu auras plein d'effets. Ouais.
Ouais, du coup, non, ça peut être vraiment cool à écouter. Hein.
Il y a quelqu'un qui est crédité pour la bande originale aussi, je me rappelle plus son nom. Mais...
C'est un mec la question de sa force, c'est est-ce qu'il y a besoin de
Harry Potter?
Ah, c'est oui, oui, oui. Bah, il est Jérémy Soule, je crois. C'est lui non, qui a fait le monde. Ah.
Les autres Harry Potter.
Ah oui, mais il y en a eu d'autres après le 3, parce que on va les oublier.
Ok, bon, donc bah... tout ça sortira été 2020. Donc c'est pour dans pas si longtemps. Et on passe à une autre news VO, c'est l'annonce par DC et par Tom Taylor de la nouvelle série Deceased qui est appelée Dead Planet. Clegan, à toi.
Oui, donc on a le retour de Tom Taylor avec sa série Deceased. On a aussi le retour au dessin de...
Ouais, Trevor Hersine.
Oui, voilà, j'ai fait un news tout à l'heure, mais j'ai oublié. Ce qui ne m'enchante pas des masses parce que j'ai vraiment pas aimé ses dessins dans le premier, mais bon, tant pis. Et donc, ça va être une histoire qui va se passer 5 ans après les événements de la série. Et donc, avec John, Damien, qui sont devenus Superman et Batman. Cassie, qui est devenue Wonder Woman. Donc, en fait, en soi, Tom Taylor, il s'est fait son petit 5G pour son coin. Et donc, ces personnages qui sont maintenant sur une autre planète vont repartir pour la Terre, parce qu'ils ont entendu un message de détresse leur demandant de l'aide, quoi. Et donc, voilà. Bon, moi, je ne suis pas fan absolu de premier Deceased, mais j'ai trouvé ça moyen sympathique. Donc, pourquoi pas. Et tant qu'on a toujours plus de Damian John, moi, je dis pas non. Et avec en plus un petit peu de Green Arrow Black Canary par
Taylor, ouais. Voilà.
Je ne dis pas non plus. Quelqu'un d'autre a le droit de parler.
Ah d'accord, bah, si on a le droit. Ouais. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi pour tout ce qui est Green Arrow et Black Canary. Je trouve que c'est vraiment le scénariste qui arrive à mieux écrire aujourd'hui la relation entre les deux personnages. Et en fait, depuis que j'ai lu Injustice et Deceased, je suis persuadé qu'en fait, s'il y a un scénariste qui doit arriver sur Green Arrow, ce serait Tom Taylor. Et est-ce qu'on pourrait pas voir ça justement comme des appels du pied en mode « Hey, j'aime bien Green Arrow, j'aime bien Black Canary. »
Ah, mais il le dit, il n'y a même pas d'appel du pied, en fait, le mec, il a des gyrophares collés sur lui.
je lui ai posé la question à la Comic-Con, je lui ai demandé s'il allait reprendre McHenry, il a dit « ça arrivera peut-être un jour, mais c'est pas prévu ».
Ouais. Et du coup, bah, je suis un peu comme Kegan, en fait. This Is, moi, je l'ai lu, j'étais en mode « ouais, bon, c'est con, le premier numéro est moche, c'est complètement débile, l'idée de la boîte mère, l'équation d'antivie qui transforme en zombie, c'est la bonne grosse excuse, mais en fait, il faut passer au-dessus. Il faut passer au-dessus pour apprécier les petites choses qui font que Tom Taylor, enfin qui justifient que Tom Taylor est un artiste de talent. Parce que ce qui est fort avec lui, c'est qu'il y a du fanservice. On va voir Harley Quinn, on va voir les personnages qu'il aime bien. C'est un scénariste qui écrit pour s'éclater. Et là, son concept à la con du virus zombie, c'est juste une excuse pour refaire ce qu'il a fait sur Injustice. Et là, il le refait, mais avec d'autres thématiques. Et c'est super intéressant dans cette idée justement de génération future, etc. Et c'est très drôle dans cette période où on attend la 5G qui veut justement mettre en place cette notion de génération future. Et là, la suite de This Is, je l'attends plus que This Is. Même si j'ai pas aimé vraiment This Is, j'ai aimé ces petits instants, ces petites connexions entre les personnages et cette dynamique, mais également le fait que ce soit un scénariste qui ose aller au bout de ses idées, un peu comme Curse of the White Knight. Comme Curse of the White Knight, en fait, c'est un truc très bas du front. Et là, dans ce nouveau, je peux l'apprécier d'autant plus s'il a cette fonction de prologue. Parce qu'en tant que prologue, il fonctionne très bien. Mais en tant que récit, il manque énormément de choses. Et là, dans l'idée où il y aurait une suite qui va jouer également sur cette passation du titre, on va pas spoiler, hein, mais bon, disons qu'ils sont un peu obligés de faire une passation. Et donc, John, Damian, etc. Ça, déjà avoir une Wonder Woman blonde dans ma tête, ça fait sonner le Teen Titan de Geoff Jones, donc déjà là il m'a convaincu. Après, pour Trevor Hersin, je suis pas tout à fait d'accord avec Legan, parce que je trouve que c'est un artiste qui il fait le boulot, c'est pas le meilleur, mais ça passe. Surtout quand tu vois le premier chapitre, tu vois très bien quand Trevor Hersin arrête de dessiner, qu'il passe à quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment dégueulasse. Ce qui fait que le premier numéro est justement, a été la grosse déception, c'est que Trevor Hersin n'a pas fait tout le chapitre. Mais en fait, pour ce qui est des numéros 2 à 6, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien pour ce qui est la représentation du zombie, de tout ce qui est hémoglobine. Ça marche bien. Donc non, moi, je suis plutôt content de le revoir. C'est vrai qu'il aurait pu y avoir mieux. Mais pour moi, ça fait le taf. Et puis ça laisse quand même l'idée de continuité d'un artiste sur... un univers avec qui accompagne toujours son scénariste. Je trouve ça bien. Donc non, je suis plutôt positif. Je suis plutôt positif sur la suite de This Is. Et en fait, je dirais même, c'est d'autant plus positif que This Is, la suite de This Is devrait attirer encore plus de gens, parce que ça va être là où on attend l'originalité de Tom Taylor. Là où le premier chapitre, la première série, c'était vraiment que des excuses. Là, dans le second, il va falloir qu'il touche à des thématiques particulières, dont celle de l'héritage.
Mais t'avais lu le prologue à This Is qu'on alors appelle coronavirus. C'est vachement cool, c'est super conceptuel.
J'ai cru ça que débarque là maintenant.
ça débarque maintenant en France dans toutes nos librairies.
Mais c'est vrai qu'en fait là on parle de quand j'ai vu la news de This Is, je me suis dit mais putain, mais en fait ils sont tellement en train de surfer sur la vague épidémie et tout ça. Tu m'étonnes que DC, ça marche si bien en France en ce moment, tu vois.
Bah, à mon avis, ça a plus plombé les ventes, hein, parce que les gens sont plus
contents. Je pense pas, les gens, ils sont tellement à fond entre...
Tout ce qui a un lien avec les pandémies, ouais. Et tous les bouquins ou les films ont lien avec ça, ont vu leur vente grimper en flèche, en fait.
Ouais. Là, le coronavirus, toi, c'est le meilleur moment pour te refaire toute la rétrospective de Walking Dead en série télé. T'as le temps.
Non, mais là, mec, tu ressors DMZ, là. En mode tranquillou, vie post-apo, c'est le bordel, etc. Survivalisme, etc. Les gens, ils sont en mode, oh, c'est trop bien, hein. C'est trop bien.
Bah, tu vois, j'aurais plutôt dit Y The Last Man plutôt que...
Ouais, aussi. Aussi.
Que
ouais,
mais après... Même si je préfère DMZ, tu vois, pour le contexte, Y, ça marcherait mieux.
Là, tu vois, là, on commencerait à un peu rigoler. Mais bon, c'est bien beau, hein. C'est bien beau de se dire, on est trop dark et on achète Batman d'âme, hein. Mais alors, quand il s'agit de buter un lapin pour le manger, alors là, il n'y a plus personne, hein, les gars. Donc, redescendez. Parce que j'ai lu des commentaires dans les publications de Batman Dame. Tu rigoles. T'as l'impression, là, certains... Ah, il y a certains, c'est eux qui patrouillent la nuit à Gotham. Hein. C'est quand même grandiose.
Tu me diras où tu trouves tout ça, parce que tu vois, mais franchement, tu parles de choses à certains moments, des anecdotes, tout ça. Mais où est-ce que tu trouves ça? Mais faut vraiment chercher. Faut chercher la bizarrerie pour la trouver comme ça. Tu vois.
Continuez à nous faire rêver sous les commentaires des publications Urban Comics, les gars, dans nos cœurs. Vous êtes là, on vous écoute.
Parfait. Du coup, dernière petite news VO avant d'attaquer les écrans. Donc, c'est moi qui voulais vous parler de l'annulation de Wildcats de Warren Ellis. C'était la suite de The Wildstorm qu'il avait sorti au début de Rebirth. Et donc, il a annoncé ça sur son blog en disant que le titre était annulé parce que le dessinateur Ramon Villalobos avait arrêté de dessiner. C'était à peu près ça. En fait, le dessinateur est parti en dépression quand Border Town a été annulé, parce que c'était le dessinateur principal.
Ah merde.
Et ouais. Depuis, du coup, il dessine plus. Et du coup, Warren Ellis, je pense, en disant ça, il a juste mis un petit tacle à Ramon Villalobos pour lui dire « Bon, dessine, parce que sinon, t'es dans la merde. » Voilà. Donc, c'est au point mort. De toute façon, le titre avait été repoussé pendant déjà depuis... Ça fait un an qu'il devait sortir. Donc voilà, là, pour l'instant, c'est très mal parti pour avoir une suite. C'est dommage, parce que The Wildstorm, c'est un titre très incompris par certains, mais moi, j'avais beaucoup aimé. Et donc, c'est dommage de voir du Warren Ellis. Moi, ça me fait toujours plaisir. Donc, bon, il est sur Batman Graves en ce moment, donc c'est déjà bien. Mais plus il y en a, mieux c'est.
De quoi? De Batman Graves?
Ouais. Non, de Warren Ellis.
Moi, j'ai fait un rêve avec Batman Graves. Il se passait des choses dedans. C'était fou.
Waouh. Franchement, ouais, je t'avoue, je me suis arrêté au numéro 4 parce qu'il se passait rien et je pense que je vais tout lire d'un coup.
Non, mais je crois qu'en fait, je vais partir en mea culpa entre ce que j'avais dit sur le Batman de Titan 4 là et Batman's Grave. Je suis en mode oula, il va falloir que je m'excuse. Alors, Batman Graves, c'est pas si bien que ça et le Batman de Titan 4, c'est parti en couille là, c'est très sévère.
Oh oui.
Par contre, la saison 3 de Castlevania, c'est pas mal. Hein. Franchement.
Ah ouais?
Ouais.
Déjà, t'as réussi à tenir deux saisons. Hein.
Putain, comment t'as fait?
La première était dure, la saison 2 était un peu mieux.
Ah putain, mais il se passe rien.
Elle commence bien.
Il se passe rien. Genre, il bute. Enfin, je suis désolé. Bouchez-vous les oreilles, mini spoiler. La saison 2, ils n'arrivent pas à battre le méchant. Le méchant, il perd parce qu'il est dépressif.
Non, mais en même temps, t'as vu le méchant. C'est Dracula.
Le méchant, il perd à cause d'une dépression. Enfin, je sais pas, mais. Dracula, tu vois. Je sais pas, c'est comme si à la fin de Star Wars 6, bah, Palpatine il se met à pleurer, il dit je m'excuse. Et il fait putain merde, les gars, j'ai jamais eu d'amis, je me sens pas bien dans ma vie. Allez, ça suffit, on arrête l'Empire, tout le monde est libre et on va monter des orphelinats. Non.
C'est toujours mieux que le 9, hein, franchement.
Oui, mais c'est pas la question. C'est pas la question.
Je crois qu'on est parti en radio libre.
Non, mais du coup, merci pour cette petite transition écran, parce qu'on va enchaîner avec ces news-là. Donc d'abord avec l'annonce du casting de deux personnes pour la série Why the Last Man. Et Blue, tu voulais en parler?
Ah bah oui, avec une pointure comme Ben Schneider qui a joué dans l'incroyable film Warcraft, hein, dont on attend tous la suite qui ne sortira pas. Donc... pourquoi pas? Parce que bon, j'ai regardé la file au début, j'étais en mode, vous savez, comme d'habitude, quand il y a des acteurs qui sont pas super connus, etc. Moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien les seconds couteaux, j'aime bien les acteurs qui sortent de nulle part ou qui ont fait des trucs un peu. Mais il n'y a pas grand chose dans sa filmographie, donc ça sera peut-être, on va dire peut-être, le rôle qui voit le. Qui va propulser Ben Schneider, hein, je sais pas.
Ouais, alors déjà, il faudrait que la série sorte, parce que là, il vient d'interrompre le tournage. Hein.
Donc, elle aussi.
Oui.
Bon, pourquoi? On a déjà tout. Il y a déjà l'univers, on en a parlé tout à l'heure. C'est bon, c'est réglé, ils ont qu'à sortir dans la rue, allez hop. Hop, 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 on se dépêche. Tu veux faire une série post-apo? Va à Paris, va à Paris dans un centre commercial, c'est bon. Hein. Tout est dévalisé, il n'y a plus rien, des gens sont morts sur le sol, c'est réglé. Tu vois? Pas besoin de payer. Tout est déjà là. Et puis on a aussi Elliot Fletcher qui va se rajouter au casting. Alors c'est un gars que moi j'avais découvert dans Shameless US, parce que c'est une série que je suis. depuis pas mal d'années. Et alors lui, alors d'habitude, bon, on s'en fout un peu, mais lui, lui c'est un acteur qui est transgenre. Et donc ça, c'est un truc qui n'était pas, si je me rappelle bien, parce que ça fait un petit moment hier que je ne l'ai pas lu, mais ça peut apporter quelque chose dans la série d'assez particulier. Ça peut être une totale connerie avec, comment ça s'appelle, une niaiserie sans nom, mais ça peut donner quelque chose de pas mal aussi, en sachant que ce fameux Elliot Fletcher est né femme, et que dans le comics, il n'y a que les femmes qui ont survécu, sauf l'exception de Yorick, qui est le petit, le rescapé, on va dire, pour une raison qui sera dévoilée pas mal plus tard dans le comics. Donc je dis pourquoi pas, c'est un choix étonnant, mais assez prometteur de casting dans l'ensemble. S'il se démarre pas mal, ça peut donner de bonnes choses.
Très bien. Les autres, des choses à dire ?
Non.
Wedge ?
Non, moi, j'ai plus d'espoir pour la série, en fait. Je me dis, on en parle depuis, je sais pas, 2005, 2006, un truc comme ça, c'est fou. Et on verra quand elle sortira. Hein. Franchement, j'en aime. Enfin, ça fait tellement longtemps que. Ok, elle progresse, puis elle recule, puis elle progresse, puis elle recule. J'ai plus d'espoir. Je me dis même que la série DMZ a plus de chances de sortir, alors que c'est un projet assez récent, que la série de Grey's the Last Man.
Il n'y a même pas question, hein. c'est évident.
Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, déjà dans Y, je pense que le projet à l'heure actuelle est beaucoup plus casse-gueule.
Donc, je ne trouve pas du tout. Je trouve que justement, Y, ça s'intègre beaucoup plus dans les luttes sociales actuelles que DMZ. En fait, DMZ, c'est
certes, presque actuel. Certes, mais justement, il y a des choses. Enfin, je crois que HBO, ils sont en mode on va sortir d'abord les séries où il y aura moins de chances qu'il y ait de polémiques ou de controverses, etc. Parce que, enfin, c'est très facile de faire quand tu sais quand tu on peut si là actuellement tu vois je t'enlève le côté Y, d'accord, je te dis que là il y a une fiction qui sort et c'est l'idée où il y a que des femmes qui ont survécu et il y a un homme qui est là. Tu dis ça peut être une série à la fois ça peut être ultra moralisateur, ça peut être très bien, ça peut être plein de choses, tu vois.
Donc, c'est une série qui comporte des risques, donc c'est. Enfin, après, moi, je suis assez bizarre, donc moi, ça va m'attirer.
Certes, mais peut-être que HBO est plus en mode, on va se calmer, on va faire des trucs où on n'aura pas de polémique dans la gueule. Ça sera beaucoup plus tranquillou, et après, on fera Y.
Ouais, mais je trouve que c'est quand même une bonne pioche. Mais après, je connais bien le sujet, etc. Donc.
Moi, j'en ai un peu marre de toutes ces séries ados qui sortent en ce moment chez DC. J'ai l'impression qu'ils font toujours... Et même dans la
en ce moment, comics en général. Moment, Just... Attention, Watch, il va te sortir le carnet, il y a marqué Arrow, Flash, Legend of Tomorrow.
Ah, il y a la liste. Non, mais... la production de Flash est arrêtée. À cause du coronavirus.
Et on remercie tous bien fort...
Lucifer aussi.
On remercie tous bien fort la Team Pangolin. Vous êtes des super souples, mais vous nous aidez bien. Putain. On va se faire pourrir. Tu sais, quand il va sortir, ça aura vraiment dégénéré à un point. Les gens, ils vont se dire, oh là là là.
Tu vois, là j'avoue, si jamais il y a une série sur ta vie, Blue, HBO ne la sortira absolument jamais. La controverse, elle fait partie de la série.
Premier épisode, censure. Allez hop, ça dégage.
Pourquoi t'as un bad Zizi?
Oh là là.
Si tu savais.
On va bien s'amuser.
Passons à la dernière news, qui est le trailer de Justice League Dark Apocalypse War, qui est le prochain film d'animation que va sortir DC Comics.
Mais dis donc, Jess, on va terminer sur une bonne note, là.
Ça dépend pour qui. Moi, c'est pas une bonne note.
Non, mais pour moi non plus, c'était complètement de l'ironie, parce que c'est vraiment n'importe quoi, ce trailer.
Bah, dis-nous ce que tu en as pensé, justement.
Bah, en fait, je sais pas, c'est pas moi qui avais chopé la news, donc c'était qui ?
Non, mais c'est moi, j'ai fait un recoupement, parce que bon, là, d'ailleurs, on peut noter que pour la première fois depuis 2 ans, j'ai fait une sélection de news.
Oui, c'était beau, merci.
Et ça, c'est quand même extraordinaire. Parce que d'habitude, je me pointe, je fais ouais, allez, on fait ça. Bah écoute, JL Dark, bah moi j'ai vu le trailer. Et après, je me suis dit, mais d'accord, mais la JL Dark, elle est où? Parce que.
Ouais, c'est, je me suis dit pareil.
C'est ça. En fait, ça, c'est la dissertation d'un élève et en fait, il a répondu à tout sauf à la question.
Moi, j'ai vu, tu sais, j'ai vu Constantine, je me suis dit, ah. Puis après, il n'y avait plus trop Constantine. Puis il y avait beaucoup Batman, il y avait beaucoup Wonder Woman, il y avait Superman. J'ai dit, ok, bah,
Et
d'accord.
après, il y a les différents.
Il y a eu Raven, je fais, ah. Et puis après, ça a redisparu. Et après, mais attendez, là, les gars qui étaient sur l'affiche du dernier film Justice League Dark, ils sont passés où? Vous les avez perdus Vous les avez perdus, là? Parce que.
Il y a quand même un plan avec Swamp Thing, donc c'est bon.
C'est vrai qu'il y a Swamp Thing qui vient en mode ça va, tranquille, allez, on se fait
Ouais.
une bouffe, hein, allez, je me casse.
Ce film, j'ai l'impression que c'est un peu l'article de Blue sur la musculation de la musculature de Stephen Amell. Tu vois, c'est on a chopé un rapport, c'est-à-dire là Swamp Thing et Constantine. Du coup, on peut appeler ça JL Dark. Donc là, l'article, on prend Stephen Amell, on peut le publier sur DC Planet. Et après, on fait tout ce qu'on veut. On fait tout ce qu'on veut d'un côté. On
Est-ce que ce
part.
serait pas toutes mes chroniques?
C'est ce que
Ah oui,
j'allais
c'est
dire,
vrai que
c'est
ça
tous les
marche.
articles de Blue, en
Ça
fait.
marche. Ça marche comme ça, ouais. Ouais, ça passe. C for Crossover, c'était exactement ça, en fait.
Non,
Donc,
mais c'est des grands moments. Hein.
ouais, la bonne période. Et. Non, bah, en fait, j'ai le même ressentiment. C'est-à-dire qu'il y a ça. Et en fait, tu vois, c'est même pas le problème. De oh merde, il n'y a pas la Justice League Dark. Je me suis même pas posé la question. Pour moi, je me dis, bon, bah, il n'y a pas la Justice League Dark, mais on s'en fout. Je me suis surtout dit, comment ils vont faire? Ils ont déjà pas les moyens d'habitude pour faire une équipe contre un ennemi. Avec le premier film Justice League Dark, on avait des pics d'animation. C'était dingue. Le combat final est fou. Enfin, le premier combat final est fou, le second un peu moins. C'est complètement ça passait d'un extrême à un autre et je me dis mais avec le budget qu'ils ont est-ce qu'ils vont réussir à faire tout ça et ça me
Parce que des
paraît
fois, il y a des cotes, hein. Il y a des
un
cotes de
problème
budget, des fois, c'est chaud.
ah
Tu te rends
oui
compte?
et surtout qu'il y en a de plus en plus là c'est terrible mais la qualité d'animation est de plus en plus mauvaise dans les films d'animation d'ici et c'est là où ils se disent tiens c'est le moment de sortir un bon gros film avec plein de personnages, une bonne grosse baston, on va engager Darkseid et puis tout ça. Je crois que c'est des mecs, ils ont été possédés par la Snyder Cut, ils se sont dit on va la faire. On va la faire en animé.
Mais il y a vraiment un côté, ce qui me gêne, c'est qu'il y a un vrai côté rétro-pédalage. Parce que quand on te présente le premier film, on appelle ça Justice League Dark, donc on te balance la Justice League Dark et on te met Batman en plus en mode bon, les gars, faut quand même un truc qui vende. Du coup, on vous a mis Batman, c'est pas déconnant, tu vois, dans l'idée, on vous a mis Batman, ça le vend. Là, on te propose un deuxième film. C'est-à-dire que le Justice League Dark, il a pas trop mal marché. Je connais pas mal de monde qui ont vu le film. Du coup, là, les caractères de Justice League Dark, ils sont déjà introduits. Et là, on te prend contre-pied, c'est-à-dire qu'on te garde Batman, on te met Superman et Wonder Woman, donc des personnages que les gens connaissent. Mais par contre, on décarte toute la Justice League Dark, sauf Constantine. Et je comprends pas l'idée. Parce que sinon, tu fais juste un film Justice League, je sais pas comment ils appellent ça, Apocalypse War, là, et
Ouais.
tu fais venir John Constantine en plein milieu, tu vois. Mais tu fais pas ce truc Justice League Dark. Alors peut-être que c'est les trailers qui le vendent ultra mal et ils se sont dit on va le vendre comme ça. Mais de ce que je me rappelle, la po enfin, de ce que je vois, la pochette, enfin l'affiche de ce nouveau Justice League Dark, bah t'as vraiment Wonder Woman, Superman, Batman et Constantine et le reste, ça y est pas non plus. Et je comprends pas trop du coup pourquoi ça s'appelle Justice League Dark.
En fait, moi, ce que j'ai compris du plot, c'est que il y a la Justice League qui s'est fait. Enfin, Darkseid a pris possession de la Justice League, et du coup, les autres vont devoir combattre cette Justice League qui est méchante.
Oh là là,
Ça aurait été génial ça quand même.
Ouais, c'est ce que j'ai compris, hein.
Non mais ils ont payé des scénaristes en visioconférence, tu vois, mais c'était une classe de maternelle en France.
Non mais franchement, moi je suis chaud. Je crois que j'ai jamais vu un comics où deux équipes se battent entre elles.
Non,
Non
ça me
mais
dit
là,
rien.
je dis ça, mais après je me dis, putain, si ça se trouve, c'est encore Dematteis qui a scénarisé ça. Et là, j'étais dégoûté parce que Dematteis, c'est vraiment un mec qui a fait des trucs géniaux dans les années 80, 90 et même début 2000. Et je sais pas, depuis 2010, ça va plus.
Attends, je regarde ça.
Parce que c'est lui qui a scénarisé Red Son, par exemple.
Non, c'est Ernie Altbaker et Greed Scott.
Ouais, bah ça va, on s'en fout alors.
on peut cracher dessus.
Tu sens de plus en plus que les films DC sont quand même faits à la va-vite avec des scénaristes qui sont plus impliqués, parce que on se base même plus sur des comics déjà existants. Du coup, les mecs sont en mode. Alors que ça pourrait se dire, on va créer de nouvelles histoires qui vont être vraiment cool. Ah,
c'est le mec de Batman Silence.
Là, les mecs, parce que tu vois, par exemple, on a eu le Batman, comment ça s'appelait, Batman Ninja, qui était sympatoche, tu vois. Il y avait un scénario original, il y avait plein de trucs, c'était ultra con, mais c'était fun. Là,
Batman
non.
Ninja, c'est le meilleur film d'animation DC qu'on a eu depuis des années.
Bon, je sais pas, Lego Batman, le film, c'était cool, mec. Hein.
Oui, enfin.
Oui, mais c'est pas.
Il est sorti au cinéma, quoi.
C'est pas produit par DC.
Ouais. Mais tu vois, genre, l'animation, ça permet de faire plein de choses, et là, on s'en sert vraiment comme une sorte de. Enfin, dépotoir, tu vois. C'est un peu. On s'en fout, et on balance comme ça. Les mecs, ils finissent pas l'animation. Tu sens que t'as un petit côté, on en a plus rien à branler. Je suis désolé, mais des films d'animation, on a un vrai côté, alors que d'ici, ça a toujours été quand même l'animation, ils ont tout haut raccordé une certaine part. Il y a un côté vraiment plus rien à branler, et des produits qui ont. C'est vraiment des produits commerciaux purs et durs, et pas des œuvres. Et on sait que l'animation, c'est quand même chaud à faire. Et finalement, des films qui resteront vraiment animation, il n'y en a pas énormément qui ont marqué, parce que finalement, des petits films comme ça. Je sais pas, il y a Gods and Monsters qui était vraiment fun. C'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était vraiment cool à mater. Et sinon, franchement, pas grand-chose à retenir. Hein. Soit c'est des adaptations plus ou moins fidèles bas du front, soit c'est des trucs totalement cons. Et c'est dommage. Il y a Aswan Arkham qui était sympa. Et je te dis, c'est vraiment triste qu'on soit réduit là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Ils ont même réussi à arrêter saison 3 de New Justice, quoi. Franchement.
Je sais pas, j'ai 4 épisodes, faudrait que je finisse.
Mais ils ont Harley Quinn maintenant pour rattraper un peu tout ça.
Oui, c'est vrai qu'ils ont Harley Quinn. Mais Harley Quinn, ça s'inscrit dans un autre délire, tu vois. C'est pas des films, c'est vraiment un côté presque sitcom. C'est vraiment Harley Quinn, il y a un côté très sitcom sketch. Là, quand il s'agit de raconter. Cartoon. Ouais, ça se prend. Alors, c'est pas que ça se prend pas au sérieux, parce qu'il y a des moments c'est quand même sérieux et c'est tragique, il y a pas mal d'émotions et c'est vraiment très bon. Mais là, on parle vraiment de films qui se prennent vraiment au sérieux de bout en bout et je trouve que ça fonctionne pas des masses. Et moi, j'ai jamais été trop... c'est un truc que j'ai déjà expliqué, mais quand il y a un animé et que c'est tiré d'un bouquin... d'un comics, je préfère lire le comics. Comme par exemple les mangas, je préfère lire le manga plutôt de voir l'animé. Mais je sais que pour beaucoup, l'animé, c'est une consécration du manga. C'est vraiment voir ces pages s'animer sous leurs yeux. Et c'est vraiment ce qu'ils kiffent. Et je trouve que, enfin, vraiment, c'est pas très cool pour les fans.
Il suffit de voir Demon Slayer, en fait, là récemment. Avec l'animé, déjà, ils ont réussi à sublimer le manga.
Parce que le manga est dégueulasse, hein,
faut se dire. Il est vraiment pas beau.
Non, disons-le, il est dégueulasse.
On parle la suite un peu, mais voilà.
Les premiers tomes, c'est immonde, enfin, c'est chaud.
Et ils ont réussi à pousser les ventes, mais c'est ouf. Le truc est côte à côte avec One Piece, quoi. Ça, c'est un truc, mais c'est. Qui aurait pu croire? Et tout ça, c'est grâce à l'animation, quoi. Qu'à un moment, faites un effort.
Désolé, par contre, j'ai trouvé ça complètement débile, hein, Demon Slayer.
Ah oui, je trouve ça aussi débile.
Mais ça va être joli, hein, c'est complètement con.
Ah oui, non, mais pas du contraire. Je dis juste que t'as déjà lu Demon Slayer, t'as vu la gueule que ça
Le manga, je l'ai pas lu, j'ai vu l'anime. Bah, l'anime, c'est vrai qu'il est joli, mais ça fout pas tout, quoi.
Non, mais mec, non, mais je sais, mais juste Google-lise juste une page de Demon Slayer, tu vas vraiment voir que on revient de très très loin, quoi. C'est quand même sacrément hard, quoi. Enfin, normalement, ça fait longtemps que j'ai pas vu des mangas d'aussi pauvre qualité graphique sur le marché. Alors qu'il y a une, wow. Il y a une Non, non, mais sans déconner, enfin, je suis sérieux pour le coup.
Non, mais j'ai une page sous les yeux, ça fait mal, c'est vrai.
Ouais, non, mais. Alors après, tu vois, j'en ai vu des mangas qui sont pas géniaux, mais là, enfin, visuellement, ces dernières années, enfin, le manga, ça a explosé, il y a énormément de concurrence sur le marché. Et en général, si tu te pointes avec ça, un manga qui a cette gueule-là sur le marché, tu te fais démonter, en fait. Enfin, jamais ça se vend. S'ils n'avaient pas eu cet animé qui sublime le tout, jamais ils vendaient Demon Slayer. Donc voilà, je pense qu'il serait temps que DC Comics réalise que s'ils veulent vendre des choses, il faut qu'ils fassent des trucs de bonne qualité. Ou alors, qu'ils refassent des séries télé, tu vois. Parce que bon, Harley Quinn, c'est particulier, parce que bon, t'as bien compris qu'Harley Quinn, tu peux pas entrer, enfin, tu montes pas ça à des gosses. Mais il y a plein de trucs. Enfin, actuellement, il n'y a plus de séries d'ici. Enfin, je veux dire, on est une génération qui avons grandi.
Ils ont un problème avec de concurrence avec Marvel qui a envahi les programmes jeunesse.
Oui, voilà. Mais nous, on a tous entre 20-30 ans, tu vois. Et tu te rends compte que, enfin, c'est une génération. Moi, j'avais déjà fait une chronique dessus, mais on est une génération qui a grandi avec, par exemple, F3X. Le choc des héros, et je me rappelle à cette époque-là, t'avais plein de séries. Alors, c'était pas tout ouf, mais tu vois, t'avais les Batman Tas qui repassaient, mais t'avais Teen Titans, Justice League, t'avais Batman, tu vois, même une série Batman, on a eu The Batman, et j'aime bien cette série. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas cette série, son Joker Rasta, il me fait marrer parce qu'il y a quelques moments où c'est quand même assez brillant. Et je trouve que c'est quand même bizarre. De se dire qu'il y a des générations là qui n'ont pas de série Batman. Par exemple, ils n'ont pas de dessin animé DC Comics, alors que nous, on est rendu une génération où il y avait des dessins animés DC Comics sur tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, putain, on s'est tapé une série de 50 épisodes, je ne sais pas s'il y en a 50, mais sur Crypto, le super chien. Bon, d'accord, c'est de la merde, mais dans l'idée, on a eu ça, et je sais que la génération un peu après, même moi, il y avait le Green Lantern animé, là, qui passait à une époque, qui a été annulé par la suite, qui passait en même temps que Young Justice. Et maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a véritablement plus rien. Le matin, il n'y a plus rien pour les gosses.
Teen Titans Go, ça passe encore ou pas?
Il y a eu un film il n'y a pas longtemps.
De toute façon, France 4 est morte, donc...
Non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Il n'y a aucune série. Tu vois, ce qui me rend un peu triste, c'est que je pense qu'il y a toute une génération là qui ne pourra pas découvrir DC et se passionner pour DC comme nous, on s'est passionné pour DC parce que quand on était gosse, on a grandi avec ces trucs-là, on a grandi avec Batman TAS, on a grandi avec JL TAS, et il y a toute une génération de gamins, parce que la génération là qui est 10 ans et moins, ou même, enfin, passons plus loin, on va dire 12 ans, 13 ans et moins, qui grandissent sans dessin animé DC Comics à la télé.
Alors, je suis en train de penser, il y a DC Super Hero Girls.
Ouais, ça là.
Qui s'adresse à un public spécifique, certes, mais...
Je veux dire, nous, on avait des vrais gros trucs, tu vois. Genre Justice League TAS, c'est vraiment des trucs lourds. Et je dis pas qu'il faut arriver à des Batman TAS avec 90 épisodes, etc. Mais genre, juste essayer, parce que, comme le disait Wash, c'est vrai qu'on est dans un marché qui est saturé par les productions Marvel. Ça, c'est un fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si on tente pas... Enfin, je veux dire, ok, le marché est saturé par des productions Marvel, mais bon, tu peux trouver un créneau pour passer du DC. Or là, DC Comics n'a rien à présenter aux gens, à part Teen Titans Go qui est totalement con, mais voilà, Harley Quinn qui ne peut pas être montré à des gosses, et DC Super Hero Girls qui est un truc ultra ultra ciblé et qui est quand même pour le très très jeune âge. Il n'y a rien pour les 8-13 ans sur le marché actuel en ce qui concerne DC. En sachant que Young Justice saison 3, elle a clairement été faite pour des gens qui ont entre 20-30 ans maintenant et qui ont connu la série quand elle a été créée.
Et qui, en général, n'ont pas aimé la saison.
Donc, oui, voilà.
Tout va bien.
Et puis, Young Justice, ça passe plus à la télé. Donc, finalement, ils ne vont pas débarquer avec la saison 3. Donc, tu ne pouvais pas diffuser la saison 3 comme ça en France.
Après, je ne suis pas sûr, si tu veux toucher la nouvelle génération, qu'une diffusion à la télé est la meilleure chose. Pour moi, aujourd'hui, tu as plus à gagner à faire un partenariat avec Netflix. Parce que tous les parents, aujourd'hui, ont plutôt tendance à mettre leurs gosses devant Netflix que devant là, vraiment la télé.
Oui, mais Netflix, enfin, tu vois, Netflix, ils ont produit plein de, tu vois, là aussi, ils ont produit plein de dessins animés qui sont vraiment cool. Je sais qu'avec Del Toro, ils ont produit Trollhunter et Trivilo, qui sont vraiment des séries super cool. Ils ont favorisé la relance de Voltron. Ils ont favorisé plein de choses. Et je me dis, à un moment donné, les gars, en sachant que je crois que sur Netflix, justement, parce que Marvel est en train de faire, enfin, Disney est en train de faire son gros truc Disney+, dans son coin, il serait temps, à un moment donné, de se réfléchir et se dire, peut-être, les gars, qu'il va falloir créer une série DC qui puisse plaire aux jeunes. Parce qu'on a eu... C'est quoi le dernier truc de Batman qu'on a eu? C'était Beware the Batman. Bon, super, ça fait 13 épisodes. Waouh. Tu vas aller loin avec ça. Hein. Là, le jeune public va sonner. Et encore que c'est passé un petit moment, quand même, à la télé. Ce qui te montre bien que il n'y avait rien d'autre derrière. Et je trouve ça dommage. Ce sera juste triste que... qui réalisent pas que c'est bien gentil de faire des trucs sombres, des trucs dark, etc. Mais si tu veux créer des générations de fans et faire rêver les gosses, il faut faire des trucs pour les gosses, quoi. Enfin, c'est triste à dire, mais je ne comprends pas. Il y a des trucs qui me dépassent. Ça me rend fondamentalement triste qu'il y ait des gamins que d'ici de l'or entre les mains et qu'il y ait des gamins qui grandissent. Sans toutes les histoires qu'on a pu avoir, tu vois, qui n'ont même pas d'équivalent et que DC essaye même pas de créer un équivalent. Je trouve ça pitoyable, honnêtement.
Et DC, si vous nous écoutez, voilà, Blue a parlé.
Ah non, mais là, ça fait longtemps que je n'étais pas venu en podcast, là, à un moment donné.
Non, mais c'était très intéressant, en tout cas. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Du coup, Blue, tu veux raconter ta petite anecdote ou pas?
Ouais.
Allez, ça.
C'est une sale idée, franchement.
T'as trois minutes. Voilà.
3 minutes. Bon, alors, à la base, vous savez, avec le sport, etc., la fac, on peut s'inscrire à des sports. Du coup, je me retrouve dans un sport. J'ai droit à 3 sports par semaine. Du coup, j'ai pris... musculation, boxe française et bien entendu Ultimate. Et quand j'entends Ultimate, je ne parle pas de MMA, mais je parle de frisbee. Donc un sport pour les virils, comme moi. Et un jour, la séance muscu se termine et donc on me propose de me ramener chez moi. Et je dis, volontiers, parce que pour mon nez, 40 minutes à pied en skyant le cul, c'est un peu chaud. Donc je monte dans la voiture d'un gars très sympa au demeurant. Pour le coup, vraiment un chic type. Il est un peu particulier, mais vraiment un chic type. Et j'entends une musique et je me dis, mais attends, je connais ça. Et il s'avère que c'est la musique de Joker, où le Joker, il se met à danser dans les chiottes. Donc, la musique passe, je dis pourquoi pas. Et là, le gars, situation normale, me sort un cran d'arrêt. Bon, alors je dis, pourquoi pas, hein. Bon, il me fait « touche pas la lame, elle est dégueulasse ». Partant comme ça, il jouait un peu avec un couteau dans la voiture, j'étais en mode « c'est un peu tendax, mais il me ramène chez moi, il est pas méchant, laissons faire, continuons à discuter ». J'en ai vu d'autres, hein, passons. Et puis il s'avère que, avant ça, j'avais remarqué qu'il s'était, son avant-bas, il s'était comme démonté, tu vois, genre comme si tu glisses, tu t'éclates et t'as des croûtes, etc. Alors moi, je dis rien, la première chose, j'ai dit, mais comment tu t'es fait ça? Il dit, je veux pas trop en parler, etc. Passons, ceci n'est pas spécialement important. Et puis, il remonte un peu sa manche. Et là, je vois pas mal de marques de traits, quoi, de couteaux. Et je me dis, c'est chaud parce qu'il y a quand même une bonne vingtaine. C'est quand même assez particulier. Bon, là, normalement, tout bon détective tic, je me dis, mais attends, là. Est-ce que ça ne serait pas la raison pour laquelle la lame était dégueulasse? Alors, bon, là, il me répond, si, effectivement... espèce de connard, comment tu veux que je me sois fait ça? Je dis oui, mais bon, excuse-moi, mais ce n'est pas potentiellement la conduite à tenir. Hein. Ce n'est pas la meilleure chose de se commencer à se... Alors, il me dit oui, mais bon, je fais, mais t'étais bourré? Il me fait non, j'ai fait ça comme ça. Alors là, je dis, c'est pas bien. Enfin, faut pas faire des choses comme ça. Enfin, c'est pas ouf. C'est pas super opti de commencer à se faire ça, quoi. Bon, après, vous avez bien compris que je n'avais pas sauté de la voiture en marche. Et vu qu'il n'était pas spécialement agressif et qu'on continue à discuter en mode tranquillou et qu'à un moment donné, je lui ai dit, bon, quand même, tu es en train de rouler. Est-ce que tu peux bien lâcher ce cran d'arrêt? Il l'a lâché. Et puis là, bon, il m'a mis la musique de The Dark Knight. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis dit, là, je me dis, je fais une petite blague, faut tenter des choses hein, dans ce moment-là. Je dis, donc là, on est en pleine nuit, tu mets la musique de Dark Knight et on est deux dans une caisse. Tu penses que je vais devenir Robin? Il m'a dit, non, je préfère être le Joker. Je lui ai dit, oui, alors du coup, je suis pas chaud pour Harley Quinn, mais je sais, les gros lots et les tenues rouges et noires, c'est moyen, même si je viens de Toulon et que le rouge et noir, on connaît, via notre équipe de rugby. Et bon, finalement, ça s'est laissé et il m'a très gentiment demandé, enfin, laissé, enfin, déposé plus ou moins de monde chez moi. Et je suis parti et je tiens quand même le remercier de la balade parce que, bah, hormis ce côté assez étrange, je dois bien l'avouer, eh bien, ce garçon était fort sympathique, même si, bon, malheureusement, il a une tendance à jouer avec l'écran d'arrêt et son avant-bras. Donc voilà, c'était ma petite histoire de Blue se faire accompagner en voiture.
Eh bien, merci beaucoup à toi.
Je suis content que tu sois encore vivant.
Eh oui. Mais pas méchant, le gars. Vraiment, on discutait de tout et de rien. Et c'était un gars qui m'avait déjà accompagné auparavant. Du coup, bon, il n'y avait pas eu de... Mais je t'avoue que là, ça a escaladé un peu vite. Je m'attendais pas à ça. Après, encore une fois, très sympathique au demeurant. Moi, il m'a déposé. Il n'a jamais été agressif. Il était très souriant. Il était très cool. Après, je me dis, bon, moi j'en ai vu pas mal au fil des années, hein, mais ça serait arrivé à quelqu'un d'autre, pas possible qu'il ait sauté de la voiture ou qu'il soit mis à gueuler de façon hystérique.
Ouais. Moi j'aurais sauté direct.
Bon, non, mais en fait, à force, t'apprends, même s'il est un peu, tu vois, enfin, bon, c'était bizarre, tu vois, mais. À force, t'apprends à détecter les doudingues et les mecs qui sont dangereux. Genre, vraiment dangereux.
Très bien. Eh bien, tu nous parleras de tes autres expériences la prochaine fois.
La conférence, est-ce un mec dangereux ou hein, c'est un mec doux dangereux?
Non, mais les doudingues, c'est pas pareil, tu vois. Enfin, bon, il était à un autre niveau que Mirrorman, mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, parce que lui, malheureusement, il se faisait du mal à lui-même, mais... Mais en soi, jamais. Tu sais vite quand quelqu'un est là pour te chlasser ou quand quelqu'un est juste a juste quelques problèmes et fait des carbistouilles, on va dire.
Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette anecdote et également le reste du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, soirée et à bientôt.
Ciao. Moi, je serais pas venu pour rien.